France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Mazette, quelle musique! Deuxième émission de notre série estivale. Ensemble, nous allons essayer de répondre à une question qui, il faut bien le dire, nous taraude. Comment réussir ou rater un da capo? Qu'est-ce qu'un da capo? Pour ceux qui craignent d'avoir oublié ou qui n'ont pas eu le temps de réviser, un rappel de deux ou trois choses importantes. Un aria con da capo, c'est un air en trois parties sur la base d'un texte en deux parties. Vous me suivez, j'espère. Un texte avec deux strophes contrastées. Quelque chose comme, par exemple, première strophe, non, je ne l'aime pas, c'est décidé, je vais les quitter, qu'ils périssent dans d'affreux tourments. Seconde strophe, pourquoi serais-je aussi cruel et infidèle et dois-je ainsi me priver moi-même de ces faveurs incomparables? Puis reprise de la première strophe, non, je ne l'aime pas, c'est décidé, etc., etc. Chez les meilleurs librettistes, cela peut donner parfois quelque chose d'intéressant, un combat intérieur cornélien entre des affects ou des idées opposées. Mais soyons honnêtes, tous les librettistes ne sont pas géniaux. Et avec 7 à 10 arias da capo par acte, 3 actes par opéra, cette mécanique de redite n'est pas toujours passionnante, tant s'en faut. Heureusement, il y a la musique. Musique donc en trois temps, première strophe, deuxième strophe et reprise de la première strophe, ça fait bien trois parties. La première partie commence en général par une ritournelle, bien typée, avec un orchestre assez fourni. On sent bien déjà la tonalité, l'ambiance. Attention, c'est là que commence le chant. Bien important d'avoir cette mélodie en tête. La mélodie est déjà virtuose. Et puis à la fin de la première partie, le chant se termine sur une ou deux notes plus longues, appuyées. Quest'alma mante. Puis la reprise de la ritournelle et fin de la première partie. Deuxième partie. Courte, contrastée par rapport à la première partie dans le texte, c'est la deuxième strophe, mais aussi contrastée musicalement, avec un accompagnement instrumental plus sobre, un tempo moins agité. Et cette deuxième partie se termine par l'équivalent du mante, ici c'est istante, et sur cette note plus longue est marqué l'orchestre va s'arrêter. Voilà, là la chanteuse se doit d'improviser une vocalise aussi virtuose, aussi efflorescente que possible. C'est ce qu'on appelle la cadence. Fin de la deuxième partie donc. Alors, c'est à cet instant précis que sur la partition apparaît l'indication da capo, ce qui veut dire « depuis le début ». C'est le moment où on voit d'ailleurs le chef et les instrumentistes qui feuillettent à toute allure la partition à l'envers pour retrouver le début de l'air et puis le chanteur sur scène se concentre. En effet, on arrive au moment crucial. La troisième partie, le da capo, la reprise depuis le début, c'est le texte de la première strophe, donc c'est une pure redite. L'orchestre lui aussi se contente de rejouer la première partie telle qu'il l'a déjà jouée. Tout repose donc sur le chanteur ou la chanteuse qui doit improviser. Si la cadence de la fin de la deuxième partie a déjà fait de l'effet, alors l'auditoire arrête de bavarder, de manger des sorbets, de courtiser son voisin ou sa voisine. Il s'attend à un déferlement vocal pyrotechnique improvisé à partir des notes déjà bien virtuoses de la ligne vocale de la première partie. Vous avez bien en tête cette ligne vocale, on la réécoute. « Eh bien, voilà maintenant le da capo. Vous vous souvenez aussi de cette note tenue à la fin de la première partie, là, sur Amante. Eh bien, à la fin du da capo, cette note, c'est le lieu de la seconde cadence. C'est le bouquet, l'ultime feu d'artifice. Attention. Voilà, c'est la fin de l'air, reprise de la ritournelle, et la chanteuse sort de scène sous le crépitement des applaudissements et les ovations. Nous allons tout de suite réécouter cet air, première partie, deuxième partie, troisième partie.
Oh,
Mazette, quelle musique! Cette virtuosité, cette vocalité éblouissante sont au service d'une expression musicale dramatique. Ici, il s'agit de la reine Bérénice. Dans son amour, elle est comme un roc inébranlable, capable de résister aux éléments déchaînés, en l'occurrence de résister à la passion dévorante et autoritaire de Scipion. L'ornementation virtuose improvisée du da capo n'est pas optionnelle. En 1723, Pier Francesco Tosi, castrat, compositeur, théoricien, le dit très clairement. En reprenant les airs da capo, le chanteur qui ne varie pas ce qu'il chante en y apportant des améliorations, n'est pas un grand artiste. Ici, c'était une très grande artiste, Sandrine Pio, qui vient d'interpréter cet air de Bérénice de Scipion de Handel. Il a été écrit pour une des plus grandes divas de l'époque, une des rival queens, Francesca Cuzzoni, créatrice de Rodelinda ou de Cléopâtre du même Handel. Nous allons donc aujourd'hui nous promener de da capo en da capo. C'est déjà l'heure de la passeggiata. Parmi les dizaines et dizaines de milliers d'aria da capo, nous allons écouter quelques airs écrits pour une prima donna, des airs très virtuoses, aria di bravura, di tempesta, etc. D'ailleurs, pourquoi est-ce que l'on parle de da capo et non pas, malgré la loi Toubon, d'air avec reprise en français dans le texte? Eh bien, tout simplement parce que, à la fin du XVIIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle, c'est d'abord en Italie, puis sur toutes les scènes d'Europe où l'on chante en italien, que cette forme s'impose. Il y a une suprématie ainsi qui va s'étendre à toute la musique vocale, profane et sacrée en Europe. Alors, comment réussir un da capo? Comme dirait mon garagiste Thierry Breton, il faut d'abord avoir une bonne boîte à outils avec les bons outils. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à outils? Des ornements, acacciatura, appoggiature, port de voix. Des mordants et des trilles. Des groupetto ou groupetti si on veut. Des gammes, des arpèges, des sauts d'intervalle, des notes piquées, des fusées et toutes sortes de vocalises sinueuses et fluorescentes. Mais une bonne boîte à outils avec de bons outils, est-ce suffisant pour réussir ? En concert, pas facile donc, sur le vif, belle maîtrise technique, mais pour dire quoi? Annoncer l'arrivée des barbares, l'horreur sur les remparts de Minas Tirith à la vue des armées innombrables de Sauron? Un critique suisse qui assistait à ce concert, Akstadt, a suggéré qu'il s'agissait simplement d'un peu d'ébriété mal contrôlée. Qu'en savait-il? Thank you. Peut-être est-il plus prudent et charitable d'arrêter là avant le déraillement final. Quel que soit son talent, on peut donc réussir, réussir à moitié ou rater un da capo. En effet, dans le da capo, les vocalistes doivent être virtuoses, variées et bien chantées, doivent respecter le style, ne pas être des démonstrations gratuites d'habileté, ni dénaturer l'air ou le rendre méconnaissable. Ornementer avec grâce et bon goût relève à la fois d'un travail intensif et d'une sensibilité d'artiste. Exemple avec ce da capo enregistré sur le vif, sur la scène du Palais Garnier. Magnifique, non? Pour réussir un da capo, il faut donc maîtriser les outils, la technique, avoir les moyens vocaux, mais aussi, puisqu'il s'agit tout de même de faire de la musique avant toute chose, avoir le style et le sens artistique. Et dans cette ère de Morgana, à la fin du premier acte d'Alcina de Handel, Nathalie Dessay, accompagnée par les arts florissants et par William Christie, superlative, me semble-t-il, a les moyens, quels moyens d'ailleurs, la technique, le style. Et pourtant, quelques critiques grognons qui étaient présents ce soir-là, mais vraisemblablement qui n'étaient pas à la création d'Alcina à Londres en 1735, ont trouvé que ce que nous venons d'entendre était un da capo, je cite, « aussi anachronique qu'interminable ». La réussite d'un da capo ne serait-elle finalement qu'une affaire de goût ? Pour répondre à cette question, passons de Handel à Vivaldi, avec un air qui est si virtuose dès la première partie que pour le da capo, il reste peu d'espace à l'interprète pour improviser. Et pourtant, la manière, le phrasé, l'expression, la couleur, la façon de tenir la ligne de chant peuvent faire la différence. Il ne s'agit pas uniquement de performances virtuoses, fut-elle hallucinante. Deux merveilleuses chanteuses, deux interprétations, d'Agitata d'Adue Venti, ouvrons nos oreilles. Spaventato, già s'aspettando. Sapristi, c'est vraiment parfait, c'est stupéfiant. Certains critiques dépourvus d'esprit et d'élégance sont osés tout de même comparer cela à un coucou suisse ou à l'agréable précision d'une Kalachnikov bien entretenue. Seconde interprétation, peut-être moins hallucinante du point de vue de l'émission vocale, mais pas moins musicale, je crois. Fantastique, non? À vous de choisir ou de ne pas choisir entre ces deux interprétations.
Mazette, quelle musique! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été.
La réussite du da capo passe aussi par la capacité de l'interprète de donner l'impression ou l'illusion du naturel, de l'impromptu, même si en fait rien n'est improvisé, de faire croire que, pour saisir l'auditeur, l'interprète se contente de saisir toutes les opportunités. Et hop, comme disait Achille Talon, pourquoi ne pas ajouter une cadence au début du da capo d'un aria di bravura déjà étourdissant d'acrobatie vocale, Alma oppressa della fida ninfa. Nous le disions tout à l'heure, entre 1700 environ et 1750, et même un peu au-delà, l'aria da capo a occupé toute l'Europe musicale. Toute l'Europe ? N'y avait-il donc pas un seul village d'irréductibles gaulois pour résister ? Réponse en trois temps. Premier temps, d'abord, les Gaulois. L'art français, je veux dire le grand art français, n'a pas attendu l'émergence de l'aria da capo pour atteindre des sommets d'inventivité, d'ornementation. Après les mélismes de l'école Notre-Dame, de l'Ars Nova, les efflorescences de l'école franco-flamande, est venue l'aire de cour qui s'imposa en France au XVIe et au XVIIe siècle, souvent en deux parties, l'une et l'autre variées dans ce qu'on a appelé le double. Le double reprend la mélodie avec moult ornements, des notes de passage, mais aussi des variations de couleurs, d'expression, de dynamique de la voix. Nous écoutons le doux silence de nos bois, d'Honoré d'Ambruis, chanté par l'incomparable Anne-Sophie von Otter et accompagné par rien moins que Jean Rondeau et Thomas Dunford.
Tennessee, oh, de Tennessee. Il y a quelque chose
Nous serions-nous égarés ? Non ! L'art français de la variation triomphe en 1685, comme en 2018, au lendemain de la mort de Jean-Philippe Smet. On se passe bien en France de l'Aria da Capo. Deuxième temps de réponse, après les Gaulois, les Gallo-Romains. Comme Marc-Antoine Charpentier, François Couperin et tant d'autres, Jean-Philippe Rameau sait réunir les goûts français et italiens, et lorsque le goût et l'amour triomphent, comme à la fin des Indes galantes en 1735, pourquoi se refuser une brillante ariette avec reprise, ce qui n'est que le nom français, donc forcément universel, de l'aria da capo, avec ornement et cadence improvisée à la reprise? Troisième temps, après les Gaulois et les Gallo-Romains, les Francs. Ou comment déstructurer l'aria da capo en le sauvant? À courant de l'Europe centrale, le chevalier Gluck arrive à Paris en 1774. Il recycle son Orfeo et Euridice de 1762 et il en fait l'immortel Orphée et Euridice de Gluck, en français sur la scène, de l'Académie royale de musique. Pour Joseph Legros, l'interprète d'Orphée, le plus grand ténor à la française de l'époque, Gluck ajoute un air à vocalise spectaculaire. 85 ans après, en 1859, Berlioz, grand adorateur, dévot de Gluck, ressuscite Orphée. Il offre à ce moment-là à la célèbre compositrice et cantatrice Pauline Viardot une nouvelle version de l'air écrit pour Legros, une version encore plus redoutable pour sa voix extraordinaire, puisqu'elle réunissait, dit-on, trois registres, soprano, mezzo-soprane et contralto, en une seule voix à l'étendue stupéfiante. Berlioz va donc encore plus loin que Gluck dans la déstructuration de l'air à trois parties. Il ne laisse plus aucune place à l'improvisation, la cadence est totalement écrite. Mais, pour autant, tous les éléments de l'aria da capo sont là. Riche ornementation très virtuose, effet de reprise, pyrotechnique vocale sur 2,5 octaves, auquel on ajoute tout le confort de la musique romantique moderne, très chromatique, modulation comprise, etc. Écoutons cet air Amour vient rendre à mon âme. Raphaël Pichon dirige l'ensemble Pygmalion à main nue. Marianne Crébassa tient donc le rôle d'Orphée et celui de Pauline Viardot. C'est un enregistrement sur le vif Salfavar.
Oh! Je brave. Je brave.
Comme Gluck et Berlioz, beaucoup de compositeurs, et ce, dès le mi-temps du XVIIIe siècle, vont refuser de se laisser enfermer dans cette forme rigide, repliée sur elle-même d'une certaine façon, qu'est l'aria da capo. Ils vont s'affranchir de ces règles strictes, laisser de moins en moins de place à l'improvisation, reprendre tout en main en quelque sorte. Mais nombreux sont ceux, notamment parmi les plus grands, de Mozart à Alban Berg, de Rossini à Bellini, Verdi, Wagner, qui vont s'employer à garder le meilleur de l'aria da capo en jouant sur tous les tableaux, créer l'effet d'attente de la reprise, déployer une vocalité ébouriffante, pleine d'inventivité, déguiser une ligne de chant mais en laissant toujours l'auditeur la reconnaître, maintenir l'impatience de la jouissance vocale fondée sur la surprise, la virtuosité, l'émotion, etc. Et Stravinsky, eh bien, comme toujours, de tout, y compris de l'aria da capo, Stravinsky fait du Stravinsky. Dans ses œuvres scéniques, bien sûr, Mavra, The Rex Progress, Oedipus Rex, Pulcinella aussi d'ailleurs, mais aussi dans l'aria 1 de son concerto pour violon, une façon d'aria da capo sans voix à la Stravinsky.
Thank you.
Après cette pause instrumentale, retour au XVIIIe siècle vocal et à notre quête du jour, comment réussir un da capo. Qui dit improvisation dit nécessité d'une parfaite écoute entre le chef, les instrumentistes et le chanteur ou la chanteuse, notamment lorsque le da capo est vraiment improvisé, en particulier au moment de la cadence. Alors c'est vrai, c'est déjà périlleux pour un aria da capo à une seule voix, mais c'est encore plus indispensable et pas moins facile pour les arias à 2, 3, 4 voix, etc. La réussite n'en est pas moins enthousiasmante, l'auditoire n'en est pas moins ébaubi. Démonstration. Cantate de Händel, Sabine Devielle, Léa Desandré et une chef, Emmanuelle Haïm, qui, mieux que quiconque aujourd'hui, je crois, s'est tissée des da capo en sorcelant. C'est un enregistrement de 2018. Un grand art d'aujourd'hui avec des artistes qui savent en ce début de 21e siècle déchaîner l'enthousiasme pour les da capo, comme le faisaient les stars, les castras, les prima donna, primo uomo, primo musico, il y a 3 siècles. Un autre exemple de ce début du XXIe siècle, oui, est fameux. Certes, vous allez l'entendre, le texte s'apparente plutôt à un rondo, comme diraient les experts, plutôt qu'à 2 strophes d'un pur aria da capo. Mais pour le reste, tout y est. 3 parties. La première avec une mélodie bien affirmée, une ligne de chant simple, peu d'ornement, une orchestration assez développée. 2e partie, une ambiance plus dépouillée autour du piano, on dirait presque une ambiance intime, si ce n'est qu'il y avait plus de 2000 personnes dans un théâtre à l'italienne chauffé à blanc. 3e partie, da capo avec une ornementation de plus en plus efflorescente et virtuose, jusqu'à une vraie cadence finale et la standing ovation bruyante d'un public en transe. Yeah. Mazette, quelle cadence! C'était Aretha Franklin, la reine de la soul, au Kennedy Center en 2015. Peut-être pas la meilleure prise de son de la décennie. Thomas Jost me fait remarquer, ah oui, nous avions parlé de Da Capo à plus de deux voix. Eh bien, à trois voix, alors allons-y et on va faire un vrai Da Capo puisque nous allons reprendre au début, au tout début de notre émission, avec notre générique, c'est-à-dire la reprise du trio à la fin du Contori de Rossini. Cette émission s'achève en ayant à peine effleuré le sujet du jour. Nous nous retrouvons dans une semaine, même lieu, même heure, pour partir à l'assaut. Il s'agira des joutes, parades, corps à corps, cavalcades musicales de la guerre amoureuse. N'hésitez pas à réviser et à vous entraîner d'ici là. Toutes les références musicales, la réécoute, le podcast de l'émission d'aujourd'hui sur la page Mazette, quelle musique sur le site France Musique. Merci à la fine équipe, Thomas Jost, Alexandre Billard, Flora Sternadel, qui m'ont accompagné aujourd'hui pour vous offrir cette deuxième émission de notre série estivale. Très bonne semaine sur France Musique et dans moins de deux minutes. Était classique.
À réécouter sur francemusique.fr.